Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on vous présente Maud, connue également sous le pseudonyme de Maudinette, pour vous parler de voyage en famille. Maud a voyagé pour la première fois à l'étranger avec sa fille, quand celle-ci n'avait que 6 mois. Et depuis, elle a développé une véritable passion du voyage en famille, qu'elle vit de manière sereine et aussi enrichissante pour ses enfants que pour son mari et elle. Au micro de son nouveau podcast Vadrouille, elle invite des parents qui ont vécu des expériences de voyage en famille inoubliables. Elle a donc inversé les rôles en participant à notre podcast et nous sommes ravis que vous découvriez, grâce à son témoignage, les bienfaits des voyages en famille. Bonjour Maud, nous sommes très fiers que tu fasses partie des invités de notre podcast. On te suit assidûment sur les réseaux sociaux via ton compte Instagram Maudinette. Mais si on échange avec toi aujourd'hui, c'est pour parler d'un autre projet. Il s'appelle Vadrouille et il s'agit d'un podcast pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants.
Exactement. Et ben bonjour à vous deux et merci de me recevoir en tout cas sur votre podcast.
Ah, c'est un grand plaisir. Et donc, on est super contente de pouvoir parler de voyage et de famille avec toi. Mais avant qu'on démarre, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, ton histoire, ta famille. Et on va démarrer avec une question que j'aime souvent poser aux personnes qui ont des familles. Comment est-ce que tu as vécu ton confinement ?
Alors, pour commencer, donc, je suis Maud, je vis avec mon mari qui s'appelle Stéphane. On a tous les deux respectivement 33 et 36 ans et on a donc deux enfants, donc Louise qui a 3 ans et demi et Jules qui a 10 mois. On habite du côté de Nice et donc ce confinement, on l'a plutôt bien vécu. On avait la chance, donc pour ma part, d'être à mon compte. Donc, c'est à la fois une chance et à la fois une complexité, puisque du coup, j'avais la chance de pouvoir être avec les enfants en journée et la complexité de devoir travailler le soir. Et mon chéri, lui, était en pause professionnelle. Donc, il était un petit peu en transition, ce qui fait qu'il travaillait pas 5 jours sur 5. Et du coup, ça nous a permis, en fait, d'avoir l'esprit assez libre pour affronter, entre guillemets, ce confinement. Et on avait aussi une deuxième chance, c'est qu'on a un grand extérieur. Donc, du coup, ça a été certainement un peu plus facile que pour d'autres.
Génial. Donc, vous avez fait beaucoup d'activités en famille.
Oui, exactement. En fait, on a surtout fait un très, très, très long week-end de 2 mois, j'ai envie de dire. On a beaucoup appris les uns des autres. On a beaucoup travailler entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on a fait plein de petites activités avec les enfants, beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins, beaucoup d'ateliers créatifs, beaucoup de petits loisirs entre guillemets. On a essayé en fait de faire en sorte que ce temps-là soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'on a joué, on s'est diverti, on a entre guillemets travaillé, je mets entre guillemets, mais c'est vrai que pour les enfants ça reste du travail entre d'une certaine façon. Et surtout, on a essayé de profiter parce qu'en fait, c'est vrai que ce temps qui nous a été offert, c'est souvent le temps qu'on cherche à avoir. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que j'entendais souvent des parents dire que c'était dur, qu'ils en avaient marre, etc. Alors qu'en fait, tout le reste de l'année, c'est ce après quoi on court d'avoir ce temps disponible avec nos enfants. Et voilà, nous, on l'a plutôt perçu comme une opportunité, même si évidemment, parfois, certains jours, on aurait aimé être comme des parents en couple, enfin comme des personnes en couple, c'est-à-dire passer un peu de temps dans le canapé, regarder Netflix, etc. Mais voilà, nous, on l'a quand même plus vécu comme une opportunité et on relativisait quand c'était un peu plus compliqué, d'autant plus qu'on a des enfants jeunes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la problématique de la scolarisation. Donc globalement, nous, on l'a bien vécu ce confinement.
Génial. Et du coup, tu as commencé à parler de tes deux enfants, Louise et Jules. J'aimerais bien savoir comment tu as vécu ta première grossesse et la naissance de ton premier enfant.
Alors, ma première grossesse, elle m'est un petit peu tombée dessus. Même si c'était prévu, on avait donc arrêté toute contraception. Elle est arrivée donc au bout de 2 mois. Avec le recul, je sais que c'est une vraie chance. Et sur le coup, j'étais un petit peu paumée. C'est-à-dire que je pensais pas que ça arriverait si vite parce que, bah, comme beaucoup de femmes, j'avais pris la pilule depuis une bonne quinzaine d'années. J'avais aussi eu recours déjà à la pilule du lendemain. Et on a toujours tendance à dire que ça peut en fait freiner après la procréation. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à tomber enceinte si vite. Donc quand c'est arrivé, je m'en suis déjà pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai eu une grossesse très courte puisque je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout de 2 mois et j'ai accouché à 8 mois. Donc en fait, pour moi, j'ai été enceinte 6 mois. Et en fait, quand on dit qu'on a besoin des 9 mois pour assimiler l'arrivée d'un bébé, je pense que c'est vrai. Parce que moi, tout a été trop vite. En fait, je suis arrivée à mon premier rendez-vous. Je pensais que ce serait une écho de datation et au final, ça a été maté 1. Et en fait, le sexe était déjà visible, etc. Enfin, j'étais toute seule, mon chéri n'était pas venu. Je pensais vraiment que c'était un tout petit rendez-vous. Donc, ça m'est un peu tombé dessus. Et c'est vrai que j'ai mis quelques mois à me rendre compte que j'allais être maman, d'autant plus que mon ventre n'est pas sorti tout de suite. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à me dire « bon là, ça y est, ça arrive », j'avais du mal à me projeter. J'avais du mal à me dire « tiens, je vais être maman, mais en fait, c'est quoi ?» Donc, j'achetais pas grand-chose. En fait, j'attendais de voir pour le croire. C'est un peu bête comme chose, mais c'est vrai que c'était ça. Et en plus, j'ai donc accouché avec 1 mois d'avance. Et là, pour le coup, même si on m'avait prévenu, le gynécologue m'avait dit que ça pouvait arriver à tout moment, puisque du coup, Louise appuyait pas mal sur le col. Il m'avait dit, dans les grossesses, on sait jamais trop à quoi s'attendre, ça peut arriver demain comme dans 1 mois. En l'occurrence, c'était 3 jours après. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que j'étais pas prête jusqu'au jour J. Donc, oui. Donc c'est vrai que je dis toujours que ça m'est un peu tombé dessus, mais par contre, une fois que c'est arrivé, je dirais que j'ai mis quand même une petite dizaine de jours à me dire, ok, ça y est, c'est parti, elle est avec nous, elle est là, c'est pour toujours, quoi. Et par contre, après, ça a été une très grosse vague d'amour et j'ai très vite compris mon rôle et je me suis très vite intéressée, en fait, à la maternité, au postpartum, à l'éducation. Et j'avais des idées quand même très précises de ce que je voulais et de ce que je voulais pas. Mais globalement, voilà, j'ai vécu une grossesse assez courte en temporalité, enfin par rapport à ma connaissance de mon état. Et à la fois après, par contre, je me suis très vite plongée dedans.
Et justement, en termes d'éducation, qu'est-ce que tu avais comme idée en tête ?
J'avais pas vraiment d'idée en tête dans le sens où j'avais pas de vision claire de ce que je voulais, mais par contre, je savais ce que je voulais pas. Par D'accord. exemple, j'ai beaucoup eu d'enfants autour de moi parce que ma maman était assistante maternelle. Donc, depuis que j'ai 8 ans, j'ai dû avoir peut-être une trentaine d'enfants à la maison. Et c'est vrai que je voyais très bien les différences entre les enfants qui avaient une éducation qui me convenait, entre guillemets, que j'estimais être bonne, et entre ceux qui avaient une éducation qui me semblait pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est vrai que je m'étais toujours dit certaines choses au niveau de l'éducation, comme par exemple déjà le respect de son enfant, le respect de ses choix. Ça, pour moi, c'était très important. La bienveillance, alors je ne mettais pas encore de mots dessus à l'époque, mais c'est vrai que c'était vraiment, j'avais pour optique de faire en fonction d'elle et pas en fonction de moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait le choix d'avoir un enfant, je me suis dit que ce serait toujours à moi de m'adapter et pas à elle de s'adapter à nous. Parce que du coup, c'était ma vision de la chose. Après, évidemment, j'avais un avis très tranché sur les VEO. Je savais que moi, c'était hors de question que j'ai une attitude dure, une attitude pas forcément violente, parce qu'on se dit jamais qu'on sera violent avec son enfant, mais en attendant, plutôt douce, sereine. Voilà, j'avais toujours du mal à entendre dans la rue les personnes qui pressaient leurs enfants. C'est des choses... voilà, que je me suis toujours dit que je ferais pas. Donc voilà, c'était plutôt sérénité, respect, on va dire que c'était les deux choses sur lesquelles j'étais attachée.
et très à l'écoute de tes enfants.
Oui, exactement. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que ce sera jusqu'à leur vie d'adulte et sûrement même au-delà. Je ne sais pas comment ça se passe après avec des enfants qui sont adultes. Mais en tout cas, aujourd'hui, de la même façon que j'agis avec Jules, c'est la même avec laquelle j'ai pu agir avec Louise. C'est vraiment... Et je pense que la clé à chaque fois, c'est la patience. Ça, je m'en suis rendu compte avec la vie de parent. Mais c'est vrai que j'essaye toujours d'être la plus patiente. Et comme tous les parents, bah des fois, quand je sature, je préfère m'isoler, revenir au calme toute seule, me calmer, entre guillemets, et revenir vers elle. Mais c'est vrai que j'ai pas envie. En fait, j'ai souvent un dicton, mais ça, je le dis souvent même avec mes amis, avec ma famille, etc. C'est ne fais pas aux autres ce qu'on veut pas, ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Bien sûr. Moi, je me dis que si maintenant, j'ai un comportement qui n'est pas adapté avec elle, il y a de grandes chances pour qu'elle, plus tard, elle ait pas un comportement adapté avec moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais
Si, bien sûr.
C'est un peu ce que j'essaye de faire.
Ça fait complètement écho avec les belles valeurs de la pédagogie Montessori qu'on essaye de transmettre à travers ce podcast.
Voilà, c'est sûr qu'on s'en inspire. Hein. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais mis trop de termes, c'est-à-dire qu'on me demande toujours « Est-ce que tu as fait la DME ? Est-ce que tu es pro Montessori ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ?» En fait, j'ai jamais réussi à mettre un terme sur ce que j'étais. J'ai toujours dit que j'étais un peu une maman au feeling. Mais le fait est qu'évidemment, cette pédagogie, elle est inspirante dès lors qu'elle n'est pas forcément appliquée dans les règles de l'art, mais qu'on s'en inspire sans être forcément dans le bien tout sûr. Bien, tout mal.
De toute façon, il faut prendre aussi le bien de chaque chose aussi, hein, je crois. Et depuis Maria Montessori, il y a des milliers de choses qui ont été inventées et il faut prendre tout ce qui est bien pour aider nos enfants.
Exactement. Hein. C'est clair.
Super. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de voyage et de famille, un thème que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier voyage en famille avec ta fille ?
Alors, le tout premier voyage en famille, c'était un petit week-end, c'était à Marseille. Et en fait, on partait avec des amis sans enfants. Et c'était vraiment notre toute première escapade. Donc, on était un petit peu perdus. Est-ce qu'on emmène des choses ? Est-ce qu'on n'emmène pas des choses ? On sera à l'hôtel, donc on sera plutôt confort, mais est-ce qu'on emmène... En fait, on se posait beaucoup de questions plutôt pratiques, mais par contre, on n'avait pas de stress sur le fait de partir en week-end. Après, sur le premier vrai voyage, puisque pour moi, un week-end, c'est... Même si c'est pour certains, c'est vraiment une expédition, mais pour moi, vraiment, la première grosse vadrouille, c'était donc la Sardaigne. On avait choisi cette destination pour notre premier été, puisqu'on l'avait booké avant sa naissance. Et qu'on s'était dit, voilà, c'est quelque chose qui nous semblait facile. Et du coup, voilà, ça a été notre premier voyage qui a duré 2 semaines. Et donc, pendant ce voyage, on a fait 3 spots. Donc, on a vraiment tenu à le faire comme quand on voyageait sans enfant. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit, on va rester les 2 semaines au même endroit parce que c'est plus simple. On ne s'est pas dit non plus, on n'envisage pas du tout de voiture parce que les bébés et la voiture, ça ne va pas. En fait, quand on l'a prévu, vu qu'on n'avait pas encore Louise, on ne s'est pas laissé envahir par les potentielles complexités qu'on aurait pu entrevoir si on avait déjà été parents. Donc en fait, on l'a fait comme on l'aurait fait si on n'avait pas eu d'enfant.
Et elle avait quel âge, Louise ?
Elle avait 6 mois et demi.
Ah ouais, toute petite. Et vous aviez pas d'appréhension particulière ?
Non, on n'avait pas. En fait, on avait surtout des questions pratiques, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché sur des blogs, sur des sites, sur Instagram, si il y avait vraiment des choses indispensables à prendre en compte. Mais par contre, d'un point de vue de nous, notre parentalité, notre façon de voyager, ça nous posait vraiment aucun problème. On n'avait pas de stress du tout. D'ailleurs, beaucoup de gens nous disaient « Mais vous êtes fous, en Sardaigne, il fait très chaud en plein mois d'août. » Mais nous, on n'avait pas le choix. En fait, mon mari, il avait ses vacances au mois d'août, donc c'était pour nous... entre guillemets, un peu inenvisageable de rester chez nous, entre guillemets, bêtement. Et c'est vrai que non, on est parti un peu bille en tête, je pense. Et on s'est dit que, quoi qu'il arrive, une fois sur place, c'est sûr qu'on adapterait notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne sera pas ultra actif sur la grosse chaleur de l'après-midi, mais avec un enfant, on sait tous qu'on se lève plus tôt, donc on sera peut-être plus actif sur le matin. Voilà, on partait en se disant qu'on adapterait en fonction d'elle, de ses besoins, mais que ça nous semblait possible, en fait.
Vous êtes parti en avion et après, vous aviez loué une voiture et réservé dans une maison à l'hôtel. Comment vous avez fait ?
Alors, nous, on habite à Nice. Du coup, on a le bateau qui nous emmène en Sardaigne, le ferry. Donc, on a pris notre voiture et on a pris le ferry de nuit pour pouvoir justement garder l'aspect nuit-jour et ne pas se retrouver un peu mélangé. Et du coup, une fois sur place, on avait notre véhicule et on avait réservé 3 hôtels, donc un sur la côte ouest, un sur la côte est et un au nord. Donc on avait fait, ça nous avait permis de faire une sorte de petit road trip avec à chaque fois 3 points d'attache.
Et moi, j'ai remarqué souvent quand je voyageais avec les premiers, parce qu'après, c'est plus facile, mais on emmène toujours beaucoup trop de choses, en fait. Et vous êtes partis les deux?
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est...
Et ben, en fait, on était un petit peu pareil, et je suis d'accord que pour le premier versus tous les autres, entre guillemets, on est beaucoup plus prévoyant, mais parce qu'en fait, c'est bête, mais on a acquis de l'expérience avec le temps. Donc, c'est sûr que la première fois, on préfère ne manquer de rien plutôt que d'avoir des choses qui manquent, parce que c'est le meilleur moyen de se stresser une fois sur le lieu de vacances. Après, le fait de partir en voiture sur le bateau, c'était vachement facile parce que du coup, on avait tout dans notre voiture. Mais effectivement, une fois sur place, on s'est bien rendu compte que la moitié des choses auraient pu être évitées. Ça, c'est une certitude. On est parti avec la petite baignoire. Alors ça, pour le coup, ça a servi.
Exactement.
Voilà, pour le coup, ça avait servi parce qu'on avait pris des hôtels un petit peu au dernier moment, par contre, à l'inverse du trajet. Mais on avait beaucoup d'hôtels, en fait, qui avaient de vieilles douches, pas de baignoire, etc. Et là, on s'est dit, bon, on va galérer, quitte à être en voiture, on la prend. Mais par contre, le voyage suivant, clairement, on ne l'a pas prise. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on a une baignoire, on peut largement se doucher avec son enfant et en fait, même avec une douche. Mais après, je pense que ça, c'est aussi la confiance en soi. Pas forcément la confiance en soi individuelle, mais la confiance en soi d'un point de vue de la parentalité qui compte. Parce que du coup, c'est vrai que prendre son enfant, se doucher avec, quand ça glisse, etc., on n'a pas forcément les gestes très à l'aise, en fait, au départ. Mmh. Alors qu'après, par exemple, moi, je vois avec Jules, je suis complètement à l'aise dès les premiers mois, alors que je ne l'étais pas forcément avec Louise. Donc ça, c'est vraiment... spécifique au fait qu'elle était toute petite.
Et comment elle l'a vécu?
Alors elle, je pense qu'elle vivait sa meilleure vie, clairement. On se réveillait avec elle à son heure, donc vers 7h30. On partait, entre guillemets, à la fraîche. Et on allait se balader. Elle faisait la sieste en voiture. Elle mangeait. Elle goûtait les petites choses. Je me souviens que c'était la première fois qu'elle a piqué un peu dans notre glace, c'était là-bas. C'est vrai que du coup, elle était aux anges. En fait, je pense que souvent, les parents ont des craintes, mais clairement, les enfants, ils se rendent compte de rien. On aurait été à la maison. Pour elle, c'était exactement le même confort, c'était exactement le même plaisir. Je ne sais pas si on peut parler de plaisir, parce que eux vivent leur vie, en fait, sans forcément avoir la notion de plaisir. Mais par contre, on gardait, en fait, les mêmes habitudes, c'est-à-dire qu'elle mangeait ses repas, on avait emmené quelques jeux, donc on jouait avec elle, et puis elle découvrait d'autres choses, elle découvrait le sable, elle découvrait l'eau de mer, elle découvrait sûrement des odeurs, même si, évidemment, elle ne parlait pas, et des goûts, parce que, voilà, on lui mettait toujours des petites choses sur nos doigts. Je me rappelle avoir pris une pizza, et c'était la première fois que je lui mettais un peu de la sauce tomate pour goûter. Donc, voilà, c'est aussi des petits souvenirs pour nous. Mais à son échelle, à elle, sûrement que c'était des belles découvertes parce qu'ils ont quand même leur petit sens bien en éveil déjà à 6 mois et demi.
Bien sûr. Et est-ce que vous avez vécu des événements que vous n'aviez pas du tout anticipés sur place?
Alors, pas vraiment en Sardaigne. Alors, juste après, par contre, on est parti à New York. On est parti fin octobre à New York, donc elle avait à peu près 9 mois et demi. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, par exemple, c'était qu'on n'aurait pas de petits bassinets dans l'avion. On s'était dit qu'on nous mettrait à dispo un berceau. Et en fait, une fois arrivés, ben, on nous a dit, ben non, parce qu'en fait, c'est les moins de 8 mois qui sont prioritaires. Et vu qu'il y en a dans l'avion, vous n'en avez pas. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à bien préparer mes voyages, encore plus depuis qu'on a des enfants, parce que je sais que sur place, on a moins le temps de passer son temps dans le guide, sur les sites, etc. Donc, on le prépare bien à l'avance. C'est pour moi la clé de profiter sur place et de pas avoir à chercher ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand on a des enfants, quand il y a un imprévu ou quand il y a une chose qui se passe pas comme on l'avait imaginé, en général, on a toujours un petit laps de temps où on est un peu désemparé, mais quand même, globalement, on rebondit assez vite. C'est vrai que moi, en tout cas, je suis pas du tout une personne stressée. Ça ne m'arrive pas du tout. J'ai jamais de stress. Mon chéri, il est un petit peu plus. Et du coup, c'est vrai que typiquement, il a eu tendance peut-être à râler un petit peu ou à se dire « mais mince, comment on va faire ?» Alors que non, moi, je me dis « bon, écoute, c'est 6 heures, 7 heures de vol, on va bien s'en sortir, on la met sur nos joues, etc. » Et finalement, des places se sont libérées derrière nous, des gens ont accepté de se déplacer et voilà. En fait, En fait, oui, il y aura toujours des obstacles parce que dans la vie, globalement, il y a toujours des obstacles, même chez soi. Même quand on va faire des boutiques parce qu'on a envie de faire des achats pour ses enfants, il y aura toujours un obstacle ou à un moment donné, quelque chose qui n'ira pas. Mais si on ne fait pas au cas où des choses n'iront pas, ben en fait, on ne fait plus rien,
bien
concrètement.
Sûr. Et puis aussi, je trouve que c'est ce qui rend énormément les enfants adaptables. Je veux dire, nous, on est adaptables, mais en conséquence, l'enfant est beaucoup plus adaptable du fait de voyager. Parce que regardez, là, il y a des enfants, ils n'auraient pas leur petit lit comme ci, comme ça, ils ne peuvent pas dormir. Alors qu'elle, ben voilà, elle s'est endormie sur les genoux, comme ci, comme ça. Et je trouve que ça, c'est important de rendre les enfants adaptables dès tout petits, parce que c'est une grande force qu'on leur offre.
C'est une énorme force. Et en fait, il faut comprendre aussi que souvent, on parle du caractère des enfants. On dit « oui, mais l'enfant, hein, moi, j'ai entendu ça très souvent. Oui, mais bon, ta fille, elle a bon caractère. » Mais en fait, je pense que c'est nous qui contribuons au caractère de nos enfants. Même si au départ, il y a des gènes, il y a plein de choses qui font que l'enfant va être plutôt doux ou plutôt tonique, etc. Mais quand même, sur la faculté de s'adapter à des situations, je pense quand même que c'est nous qui sommes responsables de ça. Et clairement, aujourd'hui, quand on nous dit « ouais, mais Louise, c'est génial, tu peux l'emmener n'importe où, elle va dormir, si elle a un lit parapluie, même encore à 4 ans, eh ben, elle va dormir dans le lit parapluie, puis s'il n'y en a pas, tu lui mets un matelas par terre, elle dort, ou au pire, tu fais cododo, elle dort encore. » Mais en fait, oui, parce que on l'a toujours emmenée partout et on l'a toujours incluse dans notre vie. C'est-à-dire qu'au début, on nous disait toujours « mais vous l'emmenez au resto ?» Bah oui, en fait, on l'emmène au resto. Alors oui, pour nous, des fois, c'est un peu plus sport, mais en fait, il y a d'autres fois où elle fait que dormir. Donc c'est vrai que pour moi, c'est nous qui sommes à l'origine de cette capacité d'adaptation. Et après, l'enfant prend le relais et lui devient adaptable aux situations.
Ouais, puis beaucoup moins stressée parce qu'elle sait affronter plein de situations différentes. Si elle a besoin de dormir au resto, elle dort au restaurant. Ouais. Il y en a, ils peuvent dormir que dans leur lit, que dans leur chambre. Donc, en fait, ça fait des enfants qui ont beaucoup moins de stress, finalement, alors que parfois, on dit « ah, vous les faites voyager, vous leur faites faire beaucoup de choses, c'est pas apaisant, nanana », mais au contraire, quoi. Vous leur permettez de vivre sans stress, parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive, elle va s'adapter. Et elle dormira, et elle mangera, et elle sera heureuse de sa vie.
Et d'ailleurs, c'est vrai, j'entends là sur l'alimentation, c'est vrai que ça aussi, c'est important. On me dit toujours que Louise mange de tout, qu'elle aime tout. Mais c'est vrai qu'on lui a aussi toujours fait goûter de tout. Par exemple, quand on allait à New York, eh ben, je me rappelle, on lui a fait goûter des petits bouts de saucisse, du hot dog. C'est bête. On pourrait se dire, oui, mais c'est de la malbouffe, etc. Mais en fait, non. Parce que dans la vie, on sera exposé à tout. Et que justement, c'est bon de goûter à tout et de savoir ce qui est occasionnel de ce qui est quotidien. Et effectivement, dans tous nos voyages, elle a toujours goûté à tout. Je me rappelle en Martinique, elle a goûté les acras de morue. Elle avait 2 ans. À New York, on lui a fait goûter le sirop d'érable, on lui a fait goûter le fameux hot dog. On a fait beaucoup de destinations. À Copenhague, on lui a aussi fait goûter la cannelle, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est en fait une ouverture d'esprit globale. C'est pas uniquement par le jeu que les enfants se développent, mais c'est aussi par tout ce qui les entoure finalement. Et c'est vrai que c'est bien d'activer un peu tous les sens. Et en voyage, clairement, là, c'est le mieux. Moi, je trouve que c'est le moment où il y a vraiment le plus de sens en éveil.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux revenir sur les raisons pour lesquelles tu as décidé de lancer ce podcast pour mettre en avant les voyages en famille ?
Alors en fait, c'est pas du tout quelque chose que j'avais réfléchi ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que depuis 3 ans et demi qu'on voyage avec Louise, j'ai quand même énormément de questions. Donc j'ai un blog et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire sur le sujet du voyage en famille, donner des conseils, etc. Et malgré ça, en fait, je me trouvais un petit peu limitée parce que ce que j'apporte finalement, c'est uniquement ma propre expérience, ma propre vision de la chose. Et souvent, que ce soit des amis, de la famille ou des abonnés, on me dira « oui, mais ta fille, elle est bien, ta fille, elle est facile, ta fille, elle mange de tout, etc. » Moi, j'avais envie de montrer qu'en fait, il y a plein d'autres familles qui voyagent. Parce que déjà, nous, quand on voyage, on en rencontre. Et aussi, il y a plein de façons de voyager. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit toujours « oui, mais nous, on n'aura pas les moyens de faire un voyage, nous... » on a peur de l'avion, on peut pas faire ça. Mais en fait, pour moi, voyager, c'est juste s'évader. C'est-à-dire que pour moi, déjà, quand on part une journée à la montagne, on voyage. Quand on part un week-end dans les Calanques, au ski, dans une ville, faire un city trip, on voyage. C'est pas uniquement partir à l'autre bout du monde pendant 6 mois pour moi, voyager. Voyager, c'est vraiment partir de la maison, s'ouvrir l'esprit, aller voir d'autres choses et profiter. Et c'est vrai que c'est ça que je voulais transmettre avec Vadrouille, donc mon podcast, c'est vraiment le fait que beaucoup d'autres familles le font de mille façons différentes, avec mille envies différentes. Et en fait, chaque fois, en tout cas pour ces familles, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, elles trouvent des solutions. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce podcast, j'espère que je pourrais inciter des parents à voyager et rassurer ceux qui sont sur le point d'homme et qui n'osent pas. Et peut-être, pourquoi pas, aider ceux qui ont de grands rêves à se lancer, puisque du coup, j'avais envie aussi d'interviewer des familles nomades qui vivent sur les routes. C'est encore autre chose. Mais ben, voilà, il y a tout un panel de façons de voyager. Et moi, j'ai envie que les gens osent, en fait.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés sur justement la facilité à le mettre en place, finalement, le voyage en famille. Ça demande de la préparation, mais c'est complètement faisable.
Oui, effectivement, je pense qu'en tant que parents, on a tous besoin d'être rassurés sur quelque chose, et je pense qu'on peut tous être rassurants sur d'autres choses. Moi, il y a peut-être des sujets où je suis contente d'être rassurée. Ben, moi, je sais que le voyage en famille, c'est quelque chose dont je suis convaincue de des bienfaits sur les enfants, sur la famille, sur nous en tant que parents ou même en tant qu'humains. Et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai envie de rassurer les autres. Et en fait, j'ai pas envie que les gens se disent dans 5 ans, ah bah ouais, en fait, j'aurais pu le faire et j'aurais dû le faire. Je préfère en fait, à la limite, qu'ils le fassent et qu'ils se disent, bon, ok, c'était compliqué, la prochaine fois, on fera mieux, on y arrivera mieux. Mais en fait, juste y aller, parce qu'en fait, moi, je pars toujours du principe que je préfère avoir le regret d'avoir fait quelque chose plutôt que des remords de pas l'avoir fait.
Ça, bien c'est sûr. Systématique. C'est hyper important. Tu as évoqué les bienfaits que ça apporte le voyage pour les enfants et les parents. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important particulièrement pour le développement des enfants de commencer à voyager dès le plus jeune âge?
Alors c'est vrai qu'en fait pour moi, c'est vrai que pour moi, c'était pas important de voyager au départ, mais c'était juste évident parce que ça faisait partie de notre vie avant le voyage, donc c'était évident de voyager après. Et je me suis rendu compte en fait de l'importance avec le temps. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte, quand on part une semaine, deux semaines en voyage, on se rend compte très très vite de l'évolution de son enfant quand on rentre. Il a acquis en général beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses, et souvent c'est aussi un temps très précieux qu'on passe à 100% avec son enfant, parce que nous, dans notre cas, quand on part en voyage, c'est des vacances, donc aucun de nous deux travaille. Et c'est vrai que du coup, on a un temps qui est privilégié, parce que même quand on est en vacances et qu'on reste chez soi, on a toute la vie de la maison en fait à faire. On fait notre repassage, notre cuisine, etc. Et on sort pas forcément de notre environnement. Alors que quand on part, c'est quand même très différent et c'est en ça qu'on profite bien plus. Et après, pour moi, c'est important aussi parce que ça favorise énormément l'ouverture d'esprit. Moi, je sais que Louise, aujourd'hui, elle a une très grande tolérance. Enfin, elle est en fait étonnée de rien. C'est-à-dire qu'elle a des copines et des copains de toutes couleurs de peau. Elle vient d'arriver à l'école. Forcément, il y a une mixité et heureusement dans sa classe. Et en fait, elle pose jamais de questions. Et en ça, je me dis, c'est qu'en fait, pour elle, c'est évident. Et c'est pareil pour les langues. Par exemple, quand elle entend quelqu'un parler en anglais ou en espagnol ou quoi, elle va juste se dire qu'elle comprend pas, mais elle va pas se dire qu'il est différent. Et en fait, je trouve que le voyage, c'est vraiment une opportunité énorme de pouvoir apprendre ça à son enfant, la tolérance. Et je trouve qu'en plus, dans notre pays, on en a tellement besoin que voilà, pour moi, c'est un des premiers bienfaits. C'est vraiment d'acquérir la tolérance, le respect et l'ouverture d'esprit. C'est les trois choses que je préfère en voyage.
Oui. Tu parlais aussi notamment du développement du vocabulaire.
Oui, le vocabulaire, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on voit clairement immédiatement. Parce qu'en général, quand on rentre de vacances, je sais que nous, on fait souvent un album photo. Et vu que je filme pour ma chaîne YouTube pendant mes voyages, en fait, j'aime bien lui remontrer un petit peu les vlogs de voyage qui sont faits aussi pour nous, pour nos souvenirs. Et c'est vrai qu'on se rend compte souvent qu'elle a retenu énormément de mots appris sur place. Je repense à la Martinique, où par exemple, elle a appris plein de mots là-bas, les tortues, les acras de morue. Elle a appris vraiment beaucoup de mots en fait qu'elle connaissait pas avant le voyage et dont elle se souvenait après. C'est vrai que pour moi, le voyage, c'est vraiment une façon de développer le vocabulaire, que ce soit pour les animaux, pour l'alimentation, pour les habitations, pour les populations, pour plein de choses. Et en fait, on se rend compte vraiment très vite que le vocabulaire, c'est vraiment la clé du développement de son enfant. Enfin, le cerveau fonctionne vraiment bien en voyage et du coup, c'est toujours bénéfique pour l'après.
Puis aussi, c'est un grand apport pour le développement des sens. Et on sait que entre 0 et 6 ans, l'enfant peut développer énormément ses sens. Après, c'est Après, c'est moins facile. Et les voyages, c'est des goûts différents, c'est des couleurs différentes, c'est des musiques différentes, c'est des tout ça. Et donc, rien que mieux que le voyage peut permettre aux enfants de développer toutes ces capacités-là aussi. Hein.
Oui, et après, c'est vrai que j'ai pas envie qu'on nous écoute en se disant « Oui, mais bon, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller en Martinique, j'ai pas les moyens d'aller à New York. » Mais en fait, j'ai envie de dire qu'on a une France tellement diversifiée qu'en fait, on peut retrouver ça pas loin de chez soi. Je sais que nous, on a de la famille, par exemple, en Alsace. Et quand on va les voir, ben, par exemple, au moment de Noël, on en profite pour faire un marché de Noël, etc. Et rien que là, c'est hyper enrichissant parce que ben, y a des mots complètement différents, il y a des odeurs particulières à Noël, au marché de Noël. Il y a des chansons, comme vous disiez, des musiques, des choses comme ça. Et pour moi, en fait, je trouve qu'on peut retrouver ça largement pas loin de chez soi.
Bien.
Peu importe où on habite en France, je pense qu'on peut retrouver
bien
ça.
Bien sûr, que ce soit l'Alsace, après le centre de la France, toutes les régions sont très, très différentes. La Bretagne et tout ça, on peut...
Bien sûr, les volcans dans le centre de la France, c'est hyper enrichissant de les emmener. L'océan, on a vraiment une belle diversité. Donc, c'est sûr qu'on peut retrouver ça. Et moi, c'est vrai qu'avant d'inciter à faire de gros voyages, déjà, j'inciterais à faire des petits voyages. Puisque du coup, autant y aller progressivement si on a des craintes et se rassurer déjà avec des voyages près de chez soi, puis un petit peu plus loin et un petit peu plus différent, etc.
Même parfois, hein, rien que passer une nuit sous la tente dans la forêt à côté de chez soi, c'est énorme. Hein. C'est déjà un voyage.
Hein. Exactement.
Et on c'est découvre ça. Des choses extraordinaires aussi. Hein. C'est rien. Tu disais tout à l'heure le fait de partir, quoi. Ailleurs.
Exactement. Le fait de sortir de son environnement du quotidien.
D'ailleurs, comment vous avez géré pour les voyages long courrier, par exemple le décalage horaire, tout ça, ça, je pense que c'est le genre de voyage qui doivent nécessiter la part la plus importante d'organisation.
Alors, en fait, j'aurais toujours tendance à dire que ça a dépendu de l'âge. En fait, quand on a fait le premier voyage long courrier, c'était donc New York à 9 mois et demi. Et finalement, elle s'est pas vraiment recalée sur le fuseau new-yorkais. Mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est un âge où, quoi qu'il arrive, elle mange plusieurs repas dans la journée. Elle dort pas mal dans la journée. Enfin, c'était toujours le cas de Louise. Donc en fait, peu importe, même si elle se réveillait très tôt, on lui donnait son biberon à 4 ou 5 heures au lieu des 6-7 heures à la maison. Mais après, elle refaisait une sieste beaucoup plus grande. Donc bon, l'un dans l'autre, c'était pas gênant. Et par contre, quand on est parti en Martinique, elle a quand même eu quelques jours pour se recaler. Je dirais 3-4. Mais après, on s'adaptait. C'est-à-dire que vu qu'on se réveillait tôt, vers les 5 ou 6 heures, eh ben, on avait tendance à partir beaucoup plus tôt, aller profiter des levées du soleil, aller se promener, prendre son petit déjeuner tranquille avant qu'il y ait du monde. Et puis après, le reste de la journée, on vivait tranquillement. Et puis, elle s'endormait un peu plus tôt, vers 18h. Et plus les jours passaient, elle s'endormait à 18h, 18h30, 19h. Donc, ça se décalait. Mais en fait, on profitait tout autant de notre journée, sauf qu'elle était un petit peu décalée. Après, si elle était fatiguée en journée, on s'adaptait. On prévoyait soit un grand trajet, comme ça, elle dormait dans la voiture, soit on rentrait un petit peu, elle dormait, on repartait. Et par contre, après le retour en France, je trouve que c'est toujours le plus complexe parce que souvent, on a tendance à optimiser le temps, c'est-à-dire qu'on reste au max en vacances et on rentre limite la veille. Et forcément, les 2-3 premiers jours sont un peu fatigants, mais en fait, jusqu'à 4 ans et demi, jusqu'à la moyenne section, finalement, il y a des siestes à l'école. Donc même si elle arrive un peu fatiguée le matin à l'école, eh ben, du coup, elle dort l'après-midi et elle se requinque en 2-3 jours. Franchement, c'est des enfants. Les enfants sont vraiment plus flexibles que nous. Ils récupèrent beaucoup plus vite que nous. Et en fait, si elle est fatiguée, c'est pas grave. Elle dort quand elle peut. Mais on n'est pas, évidemment, on l'amène pas à l'épuisement. Mais en fait, on se rend compte qu'elle est très adaptable et que le jet lag, pendant 2-3 jours, c'est un petit peu adapté, puis après, ça roule.
Et on entend souvent « voyager avec les enfants ne sont pas des vacances ». Qu'est-ce que tu en penses? Et selon toi, quels sont en fait les bienfaits pour les parents de mettre en place ces voyages avec leurs enfants?
Alors moi, je rajouterais un petit mot. Je dirais « voyager avec les enfants ne sont pas des vacances reposantes ». Et ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les vacances, en tout cas avec des tout-petits comme les nôtres, donc 0 et 3 ans, évidemment que c'est pas reposant parce que du coup, faut pas non plus mentir sur la marchandise, entre guillemets. Mais c'est sûr que autrefois, quand on voyageait en couple et qu'on terminait notre journée de vadrouille, on rentrait Première chose qu'on faisait, comme beaucoup, je pense qu'on se jetait sur le lit de l'hôtel, on regardait nos photos, tranquille, on restait peut-être une heure et quart à glander, entre guillemets, un mot qu'on ne connaît plus, à glander avant de repartir dîner, alors que là, non, c'est vrai que c'est un rythme. Quand on est réveillé, ben, en général, on se lève tout de suite, on n'a plus que soi à penser, on doit toujours préparer le sac, les affaires, etc. On rentre le soir, on refait le sac, on douche les enfants, on repart, etc. C'est sûr que c'est plus fatigant. Mais en fait, il y a quelques années comme ça qui sont fatigantes. Je pense qu'après, vers 6-7 ans, les enfants sont aussi un peu plus autonomes. Ils savent s'habiller tout seuls, ils savent choisir leurs vêtements, ils savent préparer un minimum leur sac, etc. En tout cas, ils contribuent. Et c'est vrai que malgré le fait que ce soit fatigant, eh ben moi, à l'heure actuelle, quand on me demande les meilleurs moments de notre vie de parents, très honnêtement, je pense que c'est les moments de voyage. Et en fait, au-delà du fait que ce soit bien pour les parents, ce qui est bien pour les enfants, c'est que c'est du temps de qualité. C'est un temps où on a zéro perturbation. On n'a pas notre voiture à prendre tout le temps pour aller faire des courses. On n'a pas la cuisine à faire. On n'a pas les machines à mettre en route, etc. C'est du temps de qualité où on est avec les enfants, où on profite, où on, en fait, on se détend quand même en quelque sorte. Et finalement, en fait, moi, je trouve que le bienfait principal pour nous, c'est qu'en fait, on vit, on n'est pas dans le tourbillon du quotidien, on vit, on profite. Moi, c'est en tout cas la seule chose qui me vient à l'esprit en termes de bienfait, c'est qu'on prend le temps de vivre. Et même si effectivement c'est fatigant, eh ben, c'est pas grave, on dort et puis on dormira plus tard quand ils seront grands et qu'ils nous auront quittés. Là, oui, on dormira. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et nous, on est très contents d'être fatigués.
Je trouve aussi qu'on découvre les endroits différemment avec les enfants que si on est tous deux adultes. Et du coup, le voyage est totalement différent. On peut aller au même endroit à deux et puis après avec les enfants. Et on a une toute autre vision des choses. Et souvent plus tranquille, quoi. Souvent, quand on est deux, on veut voir plein de trucs et tout. Tandis que là, on fait les choses plus tranquillement, je trouve, et qu'on profite plus du voyage, même si on est fatigué, je trouve qu'on profite plus du voyage avec les enfants. Quoi. C'est totalement un autre voyage, je trouve.
C'est vrai, et tu fais bien de m'y faire penser parce que c'est souvent ce que je dis. Je dis toujours que quand on était en couple, on partait dans une destination pour tout faire, tout voir, alors qu'aujourd'hui, on fait moins, mais mieux. Parce qu'on fait tout plus lentement, on fait tout, on va un petit peu plus au bout de chaque chose. Et c'est vrai que, par exemple, bah, je prends l'exemple de New York parce qu'on y allait une fois en couple, une fois tous les trois avec Louise, et moi, j'y suis retournée une autre fois avec une amie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai fait trois New York différents. Et en fait, je pense que c'est même valable en grandissant parce qu'avec le temps, bah, forcément, l'enfant est de plus en plus autonome et peut faire de plus en plus de choses. Et je pense que la prochaine fois qu'on fera certaines destinations qu'on a déjà faites, on les verra certainement autrement. Par exemple, je sais pas, le jour où on retourne dans les îles, ben cette fois, Louis sera en âge de faire du snorkeling. On vivra des expériences différentes de nos voyages. Mais c'est vrai qu'effectivement, on ne voyage pas de la même façon. Mais c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste autrement.
On arrive à la fin de cette conversation déjà. J'aimerais te poser une dernière question. Imaginons qu'on soit dans un monde sans Covid, quels seraient tes futurs projets en termes de voyage avec Louise et Jules ?
Alors oui, c'est sûr qu'on a eu une année particulière. Nous, on avait prévu de partir au mois de juin. On était intéressés par Bali et par Ibiza, qui sont deux destinations qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et pour le coup, qui ne sont plus trop d'actualité. Mais par contre, on n'a pas encore voyagé avec Jules, ce qui nous, en fait, ça nous frustre énormément. Parce qu'on sait que cette première année, elle est géniale parce que l'enfant est très flexible en tant que bébé. Et pour nous, c'est aussi très facile parce qu'il ne marche pas encore. Et c'est vrai qu'on est un peu déçus de ne pas avoir pu vadrouiller pendant cette année-là. Mais par contre, pour la fin de l'année, à défaut d'aller à New York, ce qui était le projet pour novembre, pour le premier anniversaire de Jules, on a prévu par contre d'aller au Portugal si c'est possible, puisque mon mari a une course là-bas. Donc on aimerait bien que ce soit maintenu. Et sinon, on a pris une réservation pour aller en Guadeloupe juste après Noël, donc avec un départ le lendemain de Noël. Donc là encore, si la situation sanitaire le permet, on prendra évidemment pas de risque et on n'en fera pas courir aux autres. Mais si c'est faisable, voilà, on aura deux semaines en Guadeloupe parce qu'on a adoré la Martinique et qu'on a très envie de retourner montrer les îles à Louise, qui en a un souvenir assez marqué parce qu'elle aime bien regarder la vidéo et les photos. Et c'est vrai qu'après, dans nos autres projets, ben, on aimerait vraiment retourner à New York à 4. C'est vraiment notre ville, c'est un peu notre ville de famille, puisque c'est là que Steph m'avait demandé en mariage. C'est là-bas qu'on a emmené Louise pour son premier long courrier. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte que j'étais enceinte de Jules. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une ville, pour moi, c'est
très symbolique.
Voilà, très symbolique, remplie d'émotions. Et c'est vrai qu'on a très envie d'y aller rapidement avec Jules, même si pour l'instant, c'est vraiment pas possible les États-Unis. Et sinon, on a des destinations, oui, qu'on aimerait bien faire avec les enfants. On rêverait de retourner en Asie. Et ça, pour le coup, on y allait donc en 2013 pour notre voyage de noces. On a fait quasiment un mois en Thaïlande et au Laos. Et en fait, c'est une des zones du monde qui nous fait un petit peu plus, pour lequel on émet un peu plus de crainte parce qu'il y a la problématique de l'eau, parce que c'est très humide, etc. Mais en fait, maintenant qu'on a pas mal voyagé, bah, on se sent prêt. Et en fait, voilà, on aimerait vraiment aller en Thaïlande tous les quatre. Ce serait un peu notre voyage objectif.
Que des beaux projets. Ben merci beaucoup Maud pour ton temps, c'était super intéressant, on a adoré échanger avec toi et je suis sûre que nos auditeurs seront super contents. Donc merci encore une fois.
En tout cas, je suis ravie que vous m'ayez invitée. Depuis que vous m'en avez parlé il y a quelques mois maintenant, j'ai évidemment écouté quelques épisodes et c'est vrai qu'en fait, je trouve que c'est très important de comprendre que les enfants en fait deviendront grands et de comprendre en fait l'importance qu'on a dans l'éducation qu'on leur donne. Ici, on a parlé de voyage parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup, même si le reste m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est nous qui avons ce pouvoir-là finalement de façonner les petits bouts qui deviendront les adultes quand nous on sera un peu plus âgés. Et voilà, c'est des valeurs qu'il faut pas oublier. Et si on peut contribuer à apporter un monde meilleur, je pense qu'en tout cas l'éducation, c'est une des clés pour être dans un monde un peu plus apaisé, un peu plus respectueux des autres, de l'environnement et de tout et de toutes les problématiques actuelles.
Ça c'est sûr. Perfect. On est complètement alignés.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Maud.
Ouais. Ben merci à vous deux et très bonne continuation.
Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.